Les pieds sur terre, Sonia Kronlund
et Delphine Seltel.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
Parce que c'est comme ça que les choses arrivent.
Cela se passe le 17 mars, au début du confinement sur France 2. Le Premier ministre est interrogé sur les dernières règles sanitaires. À la fin de l'interview, sur l'écran, en gros plan, s'affiche une question envoyée à l'écrit par une téléspectatrice, Gaëlle. Un ami est décédé il y a 48 heures, avons-nous le droit de nous rendre à son enterrement ? Séquence émotion et grosse solitude du responsable politique sur le plateau de télévision. Il va falloir qu'il explique aussi ça aux Français. Non seulement on ne peut pas accompagner les morts du Covid, être auprès d'eux, leur tenir la main quand ils partent, mais on ne va pas pouvoir non plus accompagner les vivants qui accompagnent leurs morts au moment des funérailles. Et c'est peut-être un message encore plus difficile à faire passer. Parce que dans toutes les cultures, en tout cas la nôtre, quand on perd quelqu'un, en général, le collectif se manifeste. On prend un train, on pose une journée au travail, on fait ce qu'il faut, mais on s'arrange pour être là. La psychologue Magali Molinier l'explique dans son travail sur les rites funéraires. Lors des obsèques, qu'elles soient laïques ou religieuses, on vient parler du mort. Et c'est très important. Dire quelque chose à son sujet, qui il était, de quoi sa vie fut remplie. Parfois même, on tutoie le mort devant les autres. Ce sont des choses qui ont l'air complètement banales, mais qui, d'après les anthropologues, ont une importance énorme. Parce qu'avec toutes ces descriptions, ces discours plus ou moins réussis, on construit une autre subjectivité aux morts. Et normalement, si la cérémonie est bien menée, à la fin, au moment de se quitter, on a fabriqué un mort bien dense, bien épais, bien caractérisé, et qui va pouvoir continuer de ce fait à rester présent dans le collectif des vivants, sous un autre mode. Car la vie d'un mort, c'est plus ou moins mathématique, c'est à peu près 100 ans. C'est ce que l'on compte pour que la dernière personne vivante qui a connu le mort s'éteigne à son tour. Et c'est tout ça qui, en période de Covid, à cause des règles sanitaires, ne peut plus se faire. Ou alors juste de manière virtuelle. Mais comme pour les apéros Skype ou les réunions Zoom, ça ne marche pas très bien. Ne pas pouvoir effectuer correctement le rite funéraire, c'est encore Magali Molinier qui l'explique, ça laisse des traces. Les morts ne passent pas. Et c'est destructeur pour ceux qui restent. Alors aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, c'est l'histoire d'une mère de 5 enfants, soignante en première ligne, l'amour et la mort au temps du Covid. Parler répare un tout petit peu les vivants, jusqu'à 14h, au micro de Rémi Dibowski-Douat.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui, parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Moi, c'est Aurèle qui dit, j'ai 30 ans, je suis la fille de Madame Songa Mbappé, je suis issue d'une famille de 5 enfants. Je suis infirmière intérimaire depuis cette année, depuis le mois de juillet 2020. Et actuellement, je suis en poste à la Pitié-Salpêtrière dans les dépistages du Covid. Ma maman elle avait été embauchée en tant qu'aide agent au chevet dans un EHPAD. Ils recherchaient à l'époque un agent hôtelier, quelqu'un qui s'occupe du petit déjeuner, du repas, enfin tout ce qui était alimentaire pour les résidents. Mais ma mère était, si je puis dire, aide-soignante par défaut, parce que clairement elle n'avait pas le droit d'exercer ce métier puisqu'elle n'avait pas le diplôme. Mais dans cet EHPAD, elle faisait office d'aide-soignante, c'est-à-dire être auprès des patients, leur procurer des soins de confort, d'hygiène, enfin, entre autres. Le directeur, moi, quand je l'ai eu, il m'a dit que c'est quelque chose qui était courant, que lorsqu'il y avait un accroissement d'activité, on pouvait réquisitionner le personnel, même pas qualifié, à exercer ce rôle auprès des résidents. C'est quelque chose qui est courant dans presque le directeur de l'établissement m'a expliqué, mais c'est illégal. Au début de la pandémie, elle m'a expliqué qu'ils n'avaient pas de masques, que c'était interdit qu'il y ait des masques parce que les cadres, leur disaient que c'était une grippette et qu'il n'y avait pas besoin de masques. Ce qui est quand même bizarre parce que sa cadre à elle, se pavanait devant les salariés en disant bah, « il n'y a pas besoin de masque ». Mais elle avait un masque sur le visage. Donc elle pouvait se protéger, mais les autres ne pouvaient pas se protéger. Au 16 mars, ma sœur qui m'informe que ma mère est malade et qu'elle ne se sent pas bien, et quand elle va au travail, elle est hyper fatiguée, mais c'est compliqué parce qu'elle ne peut pas s'arrêter. Elle présentait un syndrome grippal avec les symptômes que tout le monde connaît. Elle est restée en se disant que c'était une grippe qui était passagère, sans une grande gravité. Bon, elle ne m'en a pas spécialement parlé, parce que moi, je lui avais dit au début de la pandémie de se mettre en arrêt maladie parce qu'on ne savait pas, vu tous les antécédents qu'elle avait. Une sclérose en plaques, hypertension, un problème cardiaque. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas se mettre en arrêt parce qu'il fallait qu'elle paye ses factures. Elle était plus en précarité que les autres. Parce que c'est soit se mettre en arrêt maladie, elle n'était pas prolongée, renouvelée du moins. Et donc, ce qui voudrait dire qu'elle allait se retrouver au chômage. Et puis, elle avait des enfants dont elle avait la charge. Elle ne se voyait pas se mettre en arrêt. Elle avait un chantage permanent des cadres qui disaient bah, si elle se met en arrêt maladie, elle ne sera pas renouvelée. Et elle avait aussi quand même la conscience professionnelle. Pour elle, ses patients, c'était un peu comme ses des membres de sa famille. Pour elle, c'était toute sa vie de s'occuper des autres. Et pour elle, c'était important, en plus, de ne pas laisser tomber les personnes dont elle avait la charge. Donc, mélanger tout ça, vous voyez bien que ma mère, elle s'est dit, bah, je ne peux pas rester à la maison. Je me sens peut-être malade un peu, mais je peux quand même aller travailler. Je lui ai posé la question de savoir si elle avait vu un médecin. Elle me dit oui, qu'elle a vu le médecin entre-temps et que le médecin lui a dit que c'était une grippe. Bon, moi, ça ne m'a pas pu s'inquiéter parce que bon, la grippe, ça dure 4 jours, 7 jours. Enfin, après, ça s'estompe. Je n'ai pas trouvé ça préoccupant. La seule chose que je lui ai dit, c'est de demander à son médecin de lui faire un test parce que pour moi, ça ressemblait plus au signe du Covid. Et elle m'a dit non, c'est une rhinopharyngite. On s'est appelé et à chaque fois, elle me disait non, mais en fait, la nuit, j'ai la fièvre, mais puis dans la journée, ça va. Bon. Donc on est resté comme ça. Puis moi j'ai arrêté de la voir parce que je travaillais en zone Covid au début de la pandémie. Je me suis dit avec tous les antécédents médicaux qu'elle a, il y avait mes petits frères et sœurs, je vais éviter d'aller les voir. Quitte à ce que moi je reste un mois ou deux mois sans les voir, mais je vais pas aller les voir. Je pensais les protéger en fait. Et puis finalement ma belle-sœur, enfin l'épouse de mon frère. Qui appelle ma mère en lui demandant mais qu'est-ce qui se passe en fait parce que tu me dis qu'tu as certains symptômes qui se sont rajoutés, moi j'étais pas au courant. Et ma belle-sœur lui dit bah il faudra aller voir le médecin. Elle retourne voir le médecin, elle tombe sur la secrétaire qui lui dit en fait il faut rester à la maison, il y a rien à faire. Bon. Elle a pas plus revu le médecin que ça, donc derrière il la rappelle, il la met en arrêt maladie de 10 jours. Le dimanche, moi, je l'ai appelée, je lui ai demandé comment elle se sentait. Bon, ma mère avait une façon un peu de se comporter quand elle est malade. Elle avait un râle à chaque fois. Comme on est habitué à ça, j'ai pas pris ça au sérieux. Je me suis dit, bon, d'habitude, quand elle est malade, déjà qu'elle tombe pas souvent malade, c'est peut-être sa façon à elle peut-être qu'elle surjoue quelque part. C'est le même sentiment qu'a eu ma sœur. Mais en fait, elle avait une détresse respiratoire. Si je l'avais vue, peut-être que je l'aurais perçue, mais au téléphone, bon. Le lundi, elle avait rendez-vous chez le médecin, donc je l'accompagnais chez le médecin. Quand on est arrivé chez le médecin, à qui j'explique que je comprends pas, ma mère est malade depuis un temps, et puis elle dit qu'elle a mal au poumon, elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui lui marche à l'intérieur. Donc est-ce qu'on peut pas aller aux urgences? Il nous fait un mot et un bon pour pour appeler une ambulance. Elle me dit je me sens vraiment pas bien, j'ai l'impression que je suis en train de mourir. Je me dis bon. Quand on arrive aux urgences, sa saturation chute, elle tombe à 70%. Et elle va au déchoc directement. Et puis ils me disent vous pouvez rentrer, on vous rappelle. Moi, je décide de rester. Je suis restée 2 heures, j'ai attendu. Puis finalement, comme j'avais froid, j'avais faim, j'avais pas mangé, je décide d'aller prendre quelque chose chez moi et de revenir. En chemin pour retourner à l'hôpital, une infirmière qui m'appelle pour me dire oui, elle m'a dit qu'elle a une fille qui est infirmière. Bon, vous inquiétez pas, elle a été prise en charge. Là, elle est en réanimation pédiatrique. Et là, je lui ai dit, mais à quel moment ça s'est fait, puisque pour faire ce genre de choses, on a besoin quand même de l'accord de la famille. Ma mère, elle avait peur d'aller à l'hôpital, justement pour se retrouver en réanimation, parce qu'elle se dit, mais moi j'ai peur de ça, on est endormi, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas si on va se réveiller. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas aller aux urgences. Et on me dit, non mais vous inquiétez pas, rentrez, c'est pas la peine de revenir, s'il y a quelque chose, on vous appelle. Donc moi je rentre, le soir j'appelle, on me dit que tout va bien, elle a un bon taux d'oxygène, elle n'a pas besoin de trop, elle a été intubée, ventilée. Et là il m'explique que tout va bien, elle n'a pas besoin de beaucoup d'oxygène, que tout va bien. Bon, le lendemain matin, pareil, un médecin m'appelle en me disant, bah, votre maman fait partie des cas les plus stables, moins pas grave du tout, et que elle va aller à Caen. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle va faire à Caen? Et là, elle m'explique que les hôpitaux de Paris ont décidé de transférer tous les patients pas graves dans les zones où il y a moins de cas pour être pris en charge. Bah, moi, je suis confiante parce que je me dis, bon, on dit qu'elle est stable, elle va ailleurs. Bon, ma mère qui n'a jamais quitté l'Île-de-France, je me dis, bon, elle a voyagé, donc on va en rigoler quand elle sortira. On va se moquer un peu d'elle comme on faisait d'habitude. Moi, je suis plutôt confiante. Je me dis, bon, elle va sortir dans la foulée, dans la semaine. C'est ce que le médecin que j'ai eu m'a laissé comprendre. Sauf que quand elle arrive à Caen, deux jours plus tard, on me dit, elle est en hyperthermie, enfin, elle a de la fièvre. L'état de ma mère, quand elle est arrivée, en fait, était préoccupant parce qu'elle arrivait avec deux poumons presque mort, parce qu'il y a un poumon qui était atteint à 50% et l'autre qui était atteint à 70%. Je lui dis, ben dans ce cas, vous faites des cultures, enfin vous prélevez quelque chose pour chercher quel est le problème. Et là, je me suis pris la tête avec le médecin qui s'occupait d'elle, qui me disait, oui, mais vous n'êtes pas médecin, vous savez pas ce qui se passe. Je lui dis, oui, mais moi je travaille en réa Covid, je travaille avec des réanimateurs aussi, des médecins, et je pose des questions sur ce qui se passe sur les patients qu'on prend en charge. Donc j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Et le médecin me dit, oui, mais en fait, on lui a mis en place un traitement. On attend de voir ce que ça va donner. Et donc, je lui pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle m'explique que, il y a une grosse atteinte. Bon, moi, j'ai compris pas grand-chose au début sur le Covid. Elle m'explique tant bien que mal. Et puis, je lui dis, d'accord, merci d'avoir pris le temps. Et que si j'avais un souci, elle serait là pour m'expliquer les choses. Le 24 ou le 26, je vais à l'hôpital de Caen avec mon petit frère pour aller voir ma mère. Et je rencontre le médecin, enfin une dame, une médecin, qui m'explique que là, ils sont en face d'un échec thérapeutique parce que ma mère ne répond pas au traitement et qu'ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que la maladie continue à évoluer. Donc, cette dame nous explique que si d'ici mercredi, ma mère ne répond pas au traitement, ils seront obligés d'arrêter tous les traitements, de faire ce qu'on appelle dans le jargon une LATA. C'est une limitation active d'arrêt des thérapeutiques. C'est-à-dire qu'on donne le minimum des traitements et s'il y a quelque chose qui se passe de grave, en fait, la personne n'est pas réanimée. Je leur dis, excusez-moi, ma mère, elle n'a même pas 60 ans. Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Il y a 5 personnes qui dépendent d'elle derrière. Enfin, je ne trouve pas ça correct, normal. Elle m'explique que c'est comme ça. Eux, ils ne se voient pas aller au-delà de tout ce qu'ils ont pu faire. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ont fait appel à un pneumologue qui les a aiguillés comme ils pouvaient. Mais là, il ne sait plus quoi leur proposer. Donc, eux aussi sont démunis face au cas de ma mère. Et puis, le lundi 27 avril... le médecin en chef qui me rappelle, qui me dit, écoutez, les gaz du sang de votre maman sont très catastrophiques. Rien ne va. Là, je pense que c'est la fin. Il faut venir débrancher son respirateur parce qu'on pense qu'elle va même pas tenir dans la journée. Je suis perdue, je suis en pleurs, je le supplie au téléphone. Je lui dis de laisser à ma mère une chance. Mais le 28 avril, on se déplace à l'hôpital. On est tous avec mes deux frères et moi. Pour aller voir ma mère, quand on arrive, on voit tous les médecins que j'ai eus en tant qu'interlocuteur depuis l'arrivée de ma mère, qui m'expliquent, déjà le médecin femme que j'avais eu m'expliquait que, en me prenant de très haut, c'est pas à vous de décider, il y a aussi vos frères qui peuvent décider. Je lui explique que mes frères, ils ne décideront de rien du tout parce qu'ils y comprennent rien dans le médical. Donc c'est moi qui suis je vais leur expliquer, ils vont comprendre avec mes mots. Elle me dit, oui, vous pensez pas à votre mère. Bah, excusez-moi quand même, c'est ma mère. Enfin, j'ai une petite sœur de 14 ans qui attend sa mère. C'est pas pour lui dire que bah, on veut débrancher son respirateur. Sachant que ma petite sœur avait pleuré dans la matinée en me disant, je ne veux pas aller voir ma mère dans cet hôpital. Je ne l'ai jamais vue couchée et je ne suis pas capable d'aller la voir. Le lendemain matin, à 10h30, ce médecin nous appelle pour nous informer que notre maman était décédée et qu'elle est décédée toute seule. Nous, on avait demandé à rester auprès d'elle jusqu'à ce qu'elle parte. Ils avaient refusé. Elle est décédée, elle était entourée d'une infirmière et d'une aide-soignante. Après le décès de ma mère qui est survenu le 1er mai, sachant que nous sommes une fratrie de 5, dont 2 qui dépendaient de ma mère, un frère de 22 ans et une sœur de 14 ans qui vivaient dans son logement. Aujourd'hui, ce que moi je demande, ce que nous tous nous demandons du moins, parce que j'ai une autre sœur, c'est que mes frères soient pris en charge. Parce qu'on s'est demandé comment on allait vivre en fait après le départ de ma mère. Plus pour les deux derniers, parce que c'est eux qui vivaient avec ma mère. On demande juste une prise en charge classique, en fait. Notamment au niveau de l'alimentaire, enfin le vestimentaire, enfin tout ce qui incombe à une prise en charge d'enfant, en tant que pupille de l'État. Ça nous avait été... On avait eu une information à ce sujet, comme quoi, grâce à la CPAM, qu'ils allaient être pris en charge en tant que pupille de l'État. Et aussi M. Macron qui nous avait informé que ce serait mis en place dès septembre. Mais à ce jour, en fait, on n'a aucun retour. On a essayé de se rapprocher de la CPAM par rapport à cette notion de pupille d'État. On n'a pas de retour. L'EHPAD dépend de la mairie de Paris. Et donc, nous, on s'attendait à ce que la maire de Paris nous rencontre, chose qui n'a pas été faite. L'EHPAD en question a fait une réunion, je ne sais pas si ça s'appelle une réunion, avec les collègues de ma mère, la maire de Paris. Ils n'ont pas daigné nous inviter. Au final, on a reçu des courriers tapuscrits où on nous présentait des excuses, enfin comme si on était des vulgaires personnes. On méritait rien que, enfin, en termes de considération, je trouve que on est un peu traité comme de la merde. Excusez-moi du terme, parce que d'une part, personne ne nous a rencontrés jusqu'aujourd'hui. On a dû batailler pour les obsèques parce que moi, on s'était engagé à payer les obsèques. On avait déjà commencé à les payer. Puis on se posait la question, il nous manquait 6 000 euros. Comment on allait faire pour les payer? Il n'y avait que mon frère à l'époque qui travaillait. Moi, je m'étais mis en arrêt maladie. Je ne travaillais pas, donc on n'avait pas de revenus. Comment on allait faire pour payer? On a essayé de voir auprès de la CPAM qui devait nous octroyer une aide. Pour moi, c'était à l'EHPAD de prendre en charge les obsèques. Alors, quand on les a contactés, ils nous ont dit non, parce que non, ils n'avaient pas les fonds. Moi, j'aurais dit, mais si vous aviez fait les choses comme il se devait, ma mère, elle serait là, vous n'aurez même pas entendu parler de nous. Aujourd'hui, ma petite sœur, elle est sous ma responsabilité, donc je suis obligée de travailler pratiquement tous les jours. Je travaille du lundi au dimanche pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mon frère qui a 22 ans, qui faisait des études, là, la CGT de l'établissement dans lequel ma mère travaillait s'est mise en relation avec les responsables d'autres unités et ils ont pu lui trouver un emploi. C'est temporaire avec un contrat d'un an. Il a arrêté ses études, il faisait une licence en électrotechnique et là, malheureusement, il ne peut pas continuer. Aujourd'hui, ce qui me dérange, c'est qu'il arrête ses études parce que ma mère, elle voulait pas qu'il arrête ses études. Il devait aller jusqu'à la licence et ensuite peut-être continuer. Mais aujourd'hui, il est obligé d'une part, arrêter ses études. Et puis, entre le moment où ma mère est partie et le 1er septembre où il a débuté son emploi, bah, c'est nous qui nous en occupions, en fait. C'est nous qui devions donner de l'argent. Ce qui fait que moi, j'ai dû commencer à travailler en tant qu'intérimaire pour pouvoir pallier en fait une prise en charge pour tous les trois. Pour l'instant, on attend, il n'y a pas de retour. Quand on a fait appel à la mairie de Paris, on avait l'impression de plus les embêter qu'autre chose. Mais c'est pas une demande qu'on demande. Nous, on demande juste qu'il y ait une prise en charge. Et ceux qui doivent s'en occuper, c'est la mairie de Paris, en mon sens. Parce qu'ils ont failli à leur mission de protection. Et leur mission de protection envers ma mère lui a coûté sa vie. Moi, je vais très mal parce que mon diplôme d'infirmière, moi, je l'ai eu pour ma mère. Et j'ai failli arrêter plusieurs fois. Je me suis dit non, elle était là. Elle m'encourageait parce que c'était quelque part son diplôme aussi. J'avais envie qu'elle soit fière de moi et de voir qu'elle voulait être aide-soignante aussi. Enfin, je me suis dit, bon, je vais pouvoir l'aider aussi. On serait quelque part collègues. Et malheureusement, aujourd'hui, ce ne sera pas possible. J'ai eu mon diplôme, elle n'était plus là. J'ai pu lui dire avant qu'elle ne soit admise en réanimation que j'étais infirmière, mais avec la crise, les choses avaient pris un peu plus de retard. Donc, à ce jour, je n'ai toujours pas eu mon diplôme. Enfin, j'ai été admise en tant qu'infirmière diplômée, mais je n'ai toujours pas le diplôme. Donc, j'aurais aimé lui montrer que nos efforts à toutes les deux ont payé et qu'elle pouvait être fière de nous, mais surtout d'elle. Aujourd'hui, moi, je suis triste parce que je travaille tous les jours de 8h à 18h, mais je suis obligée à chaque fois d'essayer de grappiller quelques minutes pour partir plus tôt. Sinon, j'ai pas le temps d'aller au cimetière pour la voir. Bon, je la verrai pas physiquement, mais au moins pour qu'on puisse discuter, même si c'est un échange à sens unique. Mais hier, par exemple, j'ai été au cimetière. Ils avaient posé le monument et ça m'a fait un choc parce que pour moi, depuis ces mois-ci, je me disais que peut-être que c'était un mauvais rêve, que j'allais me réveiller, qu'elle était toujours en réanimation ou en convalescence quelque part et qu'elle allait revenir. Et là, qu'on ait posé le monument pour fermer vraiment sa place, son caveau, enfin, ça acte vraiment les choses que finalement, il n'y aura pas de retour. Et tous les jours, moi, je pleure, enfin, je me demande ce qu'on va devenir. Si M. Macron nous a assuré que tout serait mis en place pour septembre, et qu'on est pratiquement fin septembre, rien n'a été mis en place. C'est reconnu comme maladie professionnelle, mais ce n'est qu'une étape dans la prise en charge de mes frères. Maladie professionnelle, c'est bien, mais il faut qu'il y ait une continuité des choses. Mais on est bloqué, en fait, à l'étape maladie professionnelle. On attend. On fait que ça attendre. Mais entre-temps, on est obligé de quand même s'occuper de nos frères et sœurs. Et puis, il n'y a pas que nous, ses enfants. Il y a ses petits-enfants avec qui elle était très complice. Surtout la dernière fille de mon frère, elle s'appelait tous les jours. Je pense à elle. Ma mère, elle a beau ne plus être là, mais elle a acheté tellement de cadeaux pour ses petits-enfants qu'à chaque fois que mon frère doit venir pour les récupérer, je me dis, mais elle aurait préféré leur donner en main propre en leur disant, mais je vous ai acheté ci, je vous ai acheté ça. C'était une mamie qui était assez impliquée dans son rôle de mamie. Très impliquée aussi dans son rôle de maman. Pourtant, elle n'avait jamais un mot plus haut que l'autre. Même quand on faisait des bêtises, même moi, malgré que j'ai 30 ans, elle n'hésitait pas à nous le dire. Mais si vous vous renseignez sur ma mère, toutes les personnes, même ses voisins ou ses collègues, vous diront, c'est quelqu'un qui était passionné par la cuisine. À chaque fois qu'elle faisait à manger, qu'elle découvrait quelque chose, elle faisait à manger, elle distribuait un peu partout. Elle faisait goûter à ses collègues. Et surtout, elle était intéressée par les autres, par les gens. On est originaire du Cameroun et à chaque fois qu'elle allait au Cameroun, elle avait toujours quelque chose qu'elle avait acheté ici pour aller distribuer à des personnes qui étaient en précarité. Pour elle, c'était très important d'aider les autres. Même quand elle avait rien, elle se sacrifiait, elle disait, bon, moi au moins j'ai un toit, je suis en Europe, je peux manger, mais les gens en Afrique, certains ne peuvent pas manger. Et quand vous allez chez elle, vous verrez, il y a des cartons qu'elle avait déjà fait parce que son prochain départ pour le Cameroun en juin, elle devait leur apporter ces choses. Et je me demande comment une personne aussi gentille peut nous quitter aussitôt parce que des personnes ont jugé nécessaire qu'un masque, ça valait une vie. Parce que c'est une perte inutile, c'est un décès qu'on aurait pu éviter. Aujourd'hui, moi, j'aimerais juste qu'on me dise comment on va vivre, nous, aujourd'hui, maintenant. Il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent. C'est ma mère qui s'occupait de nous tous. Qu'est-ce qu'on va faire? pendant les fêtes de fin d'année. Ou ne serait-ce que même au-delà de ça, quand on n'allait pas bien, on savait qu'il y avait une personne qui était derrière nous, qui nous encourageait dans la vie et qui nous disait qu'il fallait qu'on prenne en exemple son parcours. Nous, on n'est pas des gens qui... On réclame, on veut... C'est pas une question d'argent, on n'est pas là pour de l'argent parce que peu importe l'argent qu'on va nous donner, ça va pas nous ramener notre mère, mais juste qu'il y ait une justice qui soit faite.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, orphelin du Covid, un reportage de Rémi Dibowski-Douat, réalisé par Cécile Lafont, mixage Manuel Couturier. Merci à Aurel Kedi et Mathilde Goanec de Mediapart. Notre attachée de production, c'est Mélissa Foust. Thank you.